Je vous présente maintenant nos deux conférenciers, donc Jacques Humeau, qui est chirurgien des hôpitaux des armées, médecin en chef. Il est diplômé de la faculté de médecine de Paris Pitié-Salpêtrière. Il est spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie générale. Et il est actuellement en activité à l'hôpital Léopold de Bellan. Il est chirurgien des hôpitaux des armées depuis 1983. Il a effectué de nombreuses missions à l'étranger en tant que médecin-chef de la 9e antenne chirurgicale aérotransportable, diverses missions, notamment opération Épervier au Tchad, mission d'évacuation et d'aide aux ressortissants étrangers en poste au Kinshasa et 3 missions ONU en ex-Yougoslavie. Il a reçu le prix de la meilleure thèse de médecine du sport en 1975. Le professeur Bernard Barranger, qui est chirurgien des hôpitaux des armées, professeur agrégé du Val-de-Grâce, actuellement chef du service de chirurgie viscérale et vasculaire du Val-de-Grâce, et il a participé à de nombreuses missions dans l'antenne chirurgicale, notamment donc au Tchad, en Yougoslavie et au Rwanda. Donc je leur cède la parole pour une cinquantaine de minutes, et après quoi nous aurons un débat avec le public. Merci beaucoup.
Bonsoir. Nous voudrions remercier d'abord M. Yves Michaud de nous avoir invités à participer aux conférences de l'Université de tous les savoirs dans le cadre du cycle « L'homme dans les conditions extrêmes » afin de vous faire partager notre expérience en chirurgie du temps de guerre et de vous montrer que l'exercice de cette chirurgie s'effectue souvent dans des conditions extrêmes. Pourquoi un tel sujet en 2007, alors qu'il n'y a plus de grands conflits mondiaux comme la guerre de 14-18 ou 39-45? Eh bien simplement parce que des conflits existent partout de par le monde. Et voici une diapositive qui représente la présence française en opération extérieure où participent les antennes chirurgicales. Vous voyez que la France est présente en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, à N'Djamena, antenne Épervier, qui est appelée à prendre probablement beaucoup d'ampleur, car je vous rappelle que la catastrophe du Darfour se situe sur la frontière est du Tchad. En Europe, avec la présence française en Bosnie, au Kosovo, au Liban récemment avec la mission Balistre et également présence française en Afghanistan et en Tadjikistan. Avant 1945, les guerres étaient des guerres de nationalisme purement conventionnel où deux armées s'affrontaient sur un front bien limité. Après 1945, les choses ont un peu changé. Les guerres sont devenues souvent idéologiques, non conventionnelles. Il n'y a plus de front. L'ennemi n'est plus individualisable. Ces guerres conventionnelles, donc d'avant 1945, ont cependant permis de poser les bases des techniques de chirurgie de guerre, et vous avez là nommé quelques grands anciens dont nous reparlerons rapidement. Des traités ont été écrits afin d'organiser cette chirurgie de guerre. Puis après, la médecine militaire française a installé des postes de secours dans les colonies françaises, les anciennes colonies, pour mettre en place l'étude des médecines tropicales des grandes endémies, avec le fer de lance Alphonse Laveran, qui en fait n'était rien d'autre que le début de la médecine humanitaire telle qu'on l'entend aujourd'hui. Revenons à Ambroise Paré, né en 1510, je vous rappelle Marignane 1515, qui a été probablement le premier chirurgien des armées. Il était appelé à cette époque barbier. Il permet de sauver un très grand nombre de blessés au moyen de techniques qu'il a décrites dans son premier ouvrage. Il a utilisé, en revenant de sa campagne d'Italie, le baume des petits chiens. et je vous indique la formule chimique. À titre d'anecdote, il s'agit de chiots nouveau-nés bouillis dans l'huile de lys avec des vers de terre et de la térébenthine. Ce baume n'a plus cours, mais on utilise simplement les tulgras qui font très bien l'affaire. Un peu après les guerres napoléoniennes, les deux principaux chirurgiens des armées, Dominique Larrey et le baron Pierre-François Percy, ont progressé dans cette activité chirurgicale pour essayer de sauver le plus grand nombre de blessés. Dominique Larrey était le premier à organiser un système de ramassage au moyen d'une ambulance qui traînait par quatre chevaux rapides. Il récupérait donc les blessés à l'avant et les amenait auprès du chirurgien qui les traitait, qui était positionné, disons, à bonne distance d'un boulet de canon. Le baron Percy, lui, a pris le problème à l'envers et il faisait monter les chirurgiens avec une petite mallette de secours sur une ambulance rapide, mais il les faisait monter au front pour sauver les blessés sur place. En digne fils, Hippolyte Larrey a pris le relais et a été le premier à utiliser une fixation externe dans les fracas de membres qui ont permis d'éviter un grand nombre d'amputations sur ces champs de bataille. Cette médecine humanitaire s'accroît de jour en jour avec la prise de conscience des populations et du monde entier avec le fameux devoir d'ingérence. On voit apparaissent des organisations comme l'ONU et les organisations non gouvernementales dont je citerai quelques-unes, le Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières et Croix-Rouge, qui participent au même titre que les antennes chirurgicales à ces missions de chirurgie du temps de guerre. Ils interviennent sur de nombreux sites où les organisations gouvernementales n'ont pas accès pour des raisons politiques et ils sont présents au Biafra, en Somalie, au Rwanda, à Haïti, au Darfour. Ils disposent d'une plus grande liberté que les antennes chirurgicales et des organisations gouvernementales car il n'y a pas de hiérarchie et ils ont une plus grande liberté. Je vous rappelle à ce sujet la polémique survenue au Rwanda lors de l'installation de la première antenne chirurgicale dans un camp de réfugiés qui a dû se protéger pour éviter les pillards et les mouvements de panique de la population complètement démunie au moyen d'un petit tour de barbelés mis en place par la Légion étrangère et pour lequel la France a été accusée d'occupation du terrain. Vous voyez que pour les organisations gouvernementales, c'est parfois un peu plus difficile que pour les ONG qui sont plus libres. Voici quelques photos d'activités chirurgicales visant à aider les populations. Il s'agit là de photos prises au Tchad. Bien entendu, les militaires sont également soignés sans distinction. À ce sujet, je voudrais vous dire que certaines images pourront vous choquer. Nous avons mûrement réfléchi pour savoir s'il fallait vous les montrer ou pas, et nous avons choisi de les diffuser, car en fait elles représentent de façon exacte ce qu'est la chirurgie de guerre. Où les populations civiles sont maintenant atteintes, vous voyez là un vieillard serbe, un jeune enfant bosniaque. Cette guerre qui rentre dans les villes, qui devient une guérilla urbaine, voisine du terrorisme, puisque ce sont des villages sans grand intérêt logistique, qui sont malgré tout détruits et qui créent de nombreuses blessures. Le terrorisme, qui est une forme nouvelle de conflit, Vous voyez là l'image de l'attentat de New York, mais je vous rappellerai l'attentat de Madrid dernièrement, l'attentat de Londres, et plus près de nous, l'attentat de la rue de Rennes et d'autres exemples. Puis, actuellement, les attentats quotidiens d'Irak et de Palestine qui créent une situation strictement similaire à l'activité chirurgicale en temps de guerre. Le tout étant maintenant très médiatisé, puisque la population mondiale suit directement les actes de guerre, ce qui a malgré tout un avantage, c'est un intérêt, c'est la prise de conscience de tous ces conflits et de ces abominations. Donc vous voyez que la chirurgie de guerre, qui ne concernait que les militaires, face à face, est devenue une chirurgie du temps de guerre, mais on pourrait l'appeler chirurgie de catastrophe ou chirurgie il va falloir que tu m'aides là. Bref.
Chirurgie de catastrophe, oui.
Toujours est-il que cette chirurgie est quand même bien différente de la chirurgie qui peut être pratiquée en temps de paix dans les hôpitaux des villes de France ou de Navarre. Voyons donc quelles sont les différences fondamentales entre cette chirurgie du temps de guerre et cette chirurgie du temps de paix. Elle se différencie par deux caractéristiques principales, ses spécificités et ses caractéristiques techniques. Commençons, si vous voulez bien, par les spécificités qui sont liées bien sûr aux conditions de terrain. Où sommes-nous pour nous occuper des blessés? Quels sont les agents vulnérants? Quel est le type de combat qui entraîne des blessures? Et bien sûr, nous parlerons des blessés qui finalement sont les principaux intéressés dans cette affaire. Commençons par les conditions environnementales. Avec la climatologie, l'ambiance dégradée, les moyens d'évacuation et une chirurgie qui se pratique en dehors des hôpitaux classiques. La climatologie, voici ici l'installation de notre camp à Bihać, en Bosnie, moins 28. Il n'est pas très facile, lorsque l'électricité n'est pas présente, de se protéger et rend les choses un peu plus compliquées. D'autant que le mois suivant, nous étions partis au Tibesti, plus 40, où les conditions sont certes différentes, mais pas beaucoup plus aisées quand même. Voilà, les conditions de stockage, les conditions d'évacuation sont laborieuses. Cette chirurgie se pratique pour les antennes chirurgicales auprès des blessés, le plus près possible du front, pour pouvoir récupérer rapidement ces blessés, et nous sommes en voisinage avec l'ennemi. Vous voyez là un char serbe, et il convient de se protéger des balles perdues, des obus et des tirs de mortier adverses. Vous avez là une ambiance dégradée, puisqu'il s'agit de notre installation au Mont Inman, au-dessus de Sarajevo, dans un hôtel qui avait été construit pour les Jeux Olympiques de Sarajevo et qui était complètement détruit, mais nous avons pu utiliser l'infrastructure de sous-sol pour monter notre bloc opératoire. Nous en reparlerons. Une ambiance, des ambiances particulières et catastrophiques, l'ambiance nucléaire, deux exemples, Hiroshima, Nagasaki, l'ambiance chimique et bactériologique qui, fort heureusement, n'a pas cours. Il faut dire que si cela était le cas, il n'y aurait pas beaucoup d'orateurs pour vous expliquer comment ça se passe. Les bombardements aériens, qui sont bien sûr de plus en plus précis. Malgré tout, il existe de nombreux dégâts collatéraux. Les tirs de mortier, les obus, pas toujours précis. Et puis, récemment, l'apparition du terrorisme avec des incidents qui se manifestent dans un pays, n'importe où, n'importe quand, et visant n'importe qui. Pour amener vers les antennes chirurgicales tous ces blessés de l'avant ou lors d'un acte terrorisme, de terrorisme, il convient d'évacuer ces blessés. Nous ne parlerons plus l'ambulance de la Marne, mais je vous montrerai qu'il existe maintenant des moyens assez sophistiqués, puisqu'il y a un Boeing médicalisé et un bateau hôpital médicalisé, le Mistral, qui est ici dans la baie de Beyrouth, lors des derniers événements, pour évacuer blessés et personnel français. Certes, cela est très efficace, encore faut-il une piste en bon état pour permettre à l'avion d'atterrir et de décoller, encore faut-il être près de la mer lorsque les incidents surviennent au Tchad, le bateau n'a pas cours. Donc, bien sûr, l'idéal, c'est l'hélicoptère rapide, mais encore faut-il avoir la maîtrise de l'air totale et avoir l'autorisation des pays pour pouvoir survoler leur territoire. L'utilisation également des avions type Hercule qui peuvent se poser sur des pistes en nettement moins bon état et également sur des pistes de sable comme au Tchad ou en Libye. L'ambulance moderne est un véhicule de l'avant blindé que vous voyez là, qui a permis à Sarajevo d'aller récupérer les blessés sur la piste d'aviation et de les extraire sans qu'ils ne soient blessés et que le personnel allant les sauver ne soit également tué par les snipers. Ils étaient donc embarqués rapidement dans ces véhicules blindés à l'abri de toute agression extérieure. Je vous l'ai dit donc dans le dernier paragraphe, nous étions rarement dans un hôpital tel que vous le concevez dans notre chère France. Vous voyez l'exemple d'un hôpital de tente qui se monte en 5-6 heures et permet dès la sixième heure de commencer l'activité chirurgicale et de triage. Où positionner ces antennes? Eh bien, toujours dans des endroits logistiques. Vous voyez que là, nous sommes proches d'un aéroport avec lequel nous pouvons utiliser les moyens de communication quand ils existent, qui permettent l'approvisionnement, qui permettent l'évacuation des blessés. La deuxième photo est l'hôpital médico-chirurgical installé à Kaboul avec une structure un peu plus lourde qui a demandé bien sûr plus de 6 heures à être installée, mais qui est quand même en rase campagne. Voici ici l'antenne chirurgicale d'Épervier en dur qui nous est chère pour y avoir y passé plusieurs années au total avec et qui permet une activité chirurgicale assez intense. L'hôpital peut s'installer sur des anciennes usines comme ici en Yougoslavie ou installer le bloc dans une école qui permet des conditions quand même plus sereines. Passons maintenant aux nouveaux hôpitaux de campagne qui utilisent les shelters, qui sont quand même des moyens modernes. Cette structure est agrandissable à besoin. C'est finalement les nouveaux MASH si chers aux Américains. Mais le problème est le délai de mise en place. C'est transporté par camion. Le délai est quand même un peu plus lent et long. Et si vous regardez bien, vous avez devant une petite antenne chirurgicale en croix qui, elle, est arrivée la première de manière aérotransportée et qui peut, lorsque c'est nécessaire, même être parachutée, puisque tout est conditionné pour pouvoir être largué par avion lorsque l'accès n'est pas possible d'une autre manière. Vous voyez, donc. Ici, c'est, je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est l'installation dans l'hôtel du Mont Igman, au-dessus de Sarajevo, qui a nécessité pour s'installer un nettoyage forcené avec des sous-sols pour pouvoir installer notre bloc opératoire avec de très mauvaises surprises, puisqu'il y avait un mur qui servait à fusiller on ne sait trop qui. L'installation progressive de l'antenne sous-tente en dessous des protections de l'infrastructure, pour terminer sur un bloc qui, somme toute, permet de travailler, certes dans des conditions rustiques, mais tout à fait satisfaisantes sur le plan chirurgical. L'idéal étant bien sûr l'utilisation des shelters, donc nous avons vu tout à l'heure le montage extérieur, avec un véritable bloc opératoire, les shelters existants sous forme d'antennes de services de réanimation et également de services de radiologie et de laboratoire. C'est presque comme à la maison, si ce n'est que le plafond est un peu bas. Passons maintenant, toujours dans ces spécificités, aux agents vulnérants, si vous le voulez bien. Les principales lésions sont dues aux éclats. Les éclats de mines, d'obus, de bombes, etc. Les plaies par balles sont malgré tout plus rares, sauf en Somalie, où le conflit urbain était fait uniquement à base de tirs de fusils mitrailleurs. Voyez ici quelques exemples d'agents vulnérants, les balles et les calibres dont nous reparlerons, les mines et autres, un exemple de mine dont vous voyez la taille par rapport à une chaussure. Les brûlures, toujours présentes dans ces lésions de chirurgie de guerre, et les blasts liés au souffle, aux éclats, au souffle de la bombe ou des mines, qui aggravent encore les conditions, les blessés et les conditions de traitement. Revenons aux balles. La balle humanitaire, bien évidemment, n'existe pas, ne peut pas être stérile. La Convention de La Haye a proposé une balle blindée, certes, qui entraîne moins de dégâts sur l'orifice d'entrée, mais en fait, le génie humain est tel que ces balles ont progressé d'une façon considérable et sont maintenant et créent des lésions bien supérieures aux balles non blindées. Les différents calibres de balles, 5,56 utilisés par le FAMAS français, le M16 américain, le calibre 7,62 utilisé dans la Kalachnikov, l'arme la plus vendue au monde, la AK-47 et la nouvelle Kalachnikov AK-74 qui rejoint les calibres modernes. Vous voyez ici un FAMAS, un M16 américain et la Kalachnikov. Balistique extérieure, c'est-à-dire à la sortie du fusil, ces balles ont une vitesse initiale considérable, 1000 mètres par seconde, entraînent donc une énergie cinétique très importante, puisque carré de la vitesse, et les dégâts sont considérables, d'autant que ces balles ont une instabilité tant en rotation qu'en oscillation et en bascule, qui accroît encore les dégâts internes, puisque lorsque l'objectif est atteint, la balle a fini son trajet aérien pour aboutir à la balistique terminale et entraîne un profil lésionnel avec trois types de profils, le trajet rectiligne, la cavité résiduelle et la cavité temporaire. Vous voyez ici une balle avec un pouvoir pénétrant faible, avec un nec court qui donne des lésions dès l'orifice d'entrée. Ici, une balle classique de calibre, comme le FAMAS, avec un orifice d'entrée ponctiforme, une bascule la balle, des dégâts considérables dans les tissus du corps humain, qui sont directement visibles, c'est la cavité permanente, mais également la cavité temporaire, qui n'est pas visible immédiatement, qui dans les heures qui suivent vont entraîner des nécroses considérables. Si l'orifice de sortie, la balle sort à cet endroit-là où me suit ma flèche, vous avez un orifice de sortie énorme, expliquant les gros dégâts. Lorsque cette balle touche un os, elle se fragmente, faisant multiples éclats et également propulse des fragments osseux qui aggravent encore les lésions rencontrées. Après les balles, les mines. Première mine créée sous la dynastie Ming. Première mine antipersonnelle utilisée lors de la guerre de sécession par les Américains. Il convient de se souvenir qu'il est recensé 110 millions de mines disposées dans 64 pays et qu'actuellement, tous les jours, des enfants au Vietnam ou des femmes travaillant dans les rizières sont blessés par ces engins. Il existe différents types. Je ne vous parlerai pas des mines marines. Il existe des mines terrestres, anti-chars, et des mines antipersonnelles qui nous intéressent un peu plus, avec des mines chinoises, des mines russes, des mines à fragmentation. Les mines antipersonnelles peuvent avoir un effet de souffle incapacitante, c'est un moindre mal. Des mines à fragmentation qui envoient multitude d'éclats, qui sont bodissantes ou non, pour nous blesser non pas seulement les membres, mais sauter à hauteur de l'abdomen, pour créer des lésions irréversibles. Et la fameuse cluster bomb, bombe sous-munition, qui a été déversée lors de la guerre d'Irak, qui est un envoi par une bombe classique, qui répartit différentes bombes mères, qui elles-mêmes explosent et met en place sur le terrain une multitude de petites mines filles qui sont également bondissantes. Vous voyez là un beau paysage. Il s'agit de la frontière entre la Croatie et la Serbie, qui ne paraît pas très difficile. En fait, il s'agit d'un monticule rempli de mines qui interdit le passage. Voilà quelques exemples de mines. Ici, une cluster bombe. Et vous avez là la prévention pour les populations civiles qui ne savent pas lire la plupart du temps, des champs de mines. Vous imaginez les promenades en campagne. Voilà quelques exemples de pieds de mine et des difficultés que l'on doit rencontrer lorsque on récupère ce type de blessés. Les blessés, objet principal de la conférence malgré tout, sont la plupart du temps, vous l'avez vu, des polyblessés, pour ne pas dire des polytraumatisés, lorsqu'il existe une lésion crânio-cérébrale ou une lésion thoracique. Ces blessés sont pratiquement toujours des plaies infectées. Ainsi, en Yougoslavie, plus de 25% des blessés ont été recensés infectés. Et enfin, les pertes sanguines qui entraînent des décès très fréquents lorsqu'elles ne sont pas compensées ou arrêtées. Voilà ici des plaies infectées, des plaies par mine, infectées également. Trois conséquences, il s'agit d'une chirurgie de l'urgence, bien évidemment. Depuis la Deuxième Guerre mondiale et l'apparition de la pénicilline, l'antibiothérapie systématique est de mise, et cela a sauvé de très nombreuses vies. Et enfin, la transfusion, qui maintenant, avec les moyens modernes, est une action importante dans cette chirurgie. Vous voyez, et la perfusion doit être mise en place dès le début, car la perte d'une heure est une perte de chance de vie. Le type de blessé, rapidement, vous voyez, 70% membres supérieurs, membres inférieurs. Bien sûr, grâce au gilet qui protège le thorax, mais également par un biais statistique, parce que tous ces blessés de la tête, du thorax et de l'abdomen n'entrent pas dans ces statistiques, car ils sont décédés bien avant d'arriver au camp de base où on pourrait les prendre en charge chirurgicalement. Vous voyez là une plaie par balle, une plaie abdominale par balle. Cette guerre conventionnelle, autrefois, atteignait les soldats, des adultes jeunes en bonne santé, malgré tout. La guerre non conventionnelle actuellement, qui touche les populations civiles dans les camps de réfugiés, touche femmes, enfants, vieillards, qui sont dénutris, assoiffés, affamés, avec parfois des épidémies de choléra, qui ne font que compliquer la tâche des médecins sur place. Voyez donc que cette chirurgie du temps de guerre est une chirurgie du traumatisme et de l'urgence, même chose que dans les populations civiles, un accident de la route, mais en situation d'exception, comme pour un attentat. La dimension humanitaire est maintenant intriquée, fréquente, pour ne pas dire permanente, aboutissant à une chirurgie de dénuement, où il n'y a rien dans ces pays, aucune structure hospitalière, aucune structure médicale, et ne pas oublier non plus l'aspect psychologique, avec les mouvements de foule, de panique, qui peuvent créer quelques problèmes. Je vous rappelle le souci de l'antenne chirurgicale au Rwanda, qui avait dû être protégée par quelques petits fils barbelés. Il s'agit donc d'une chirurgie d'exception, qui suit des règles bien précises et qui doivent être connues pour et enseignées pour pouvoir proposer des traitements rapides, efficaces, donnant le maximum de chances de survie à ces blessés. Et je cède maintenant la parole au docteur Barranger pour les caractéristiques techniques.
Bien, comme on vous l'a dit, il y a des règles qu'il faut respecter, parce que cette chirurgie de guerre, qui est une chirurgie d'exception, est une chirurgie où il faut gérer en fait la pénurie. Il faut gérer la pénurie de temps, la pénurie de moyens, la pénurie de tout en fait. Donc si on n'a pas de règles, eh bien c'est l'embouillamini le plus complet et c'est surtout une perte de chance pour les blessés. Alors, il est bien évident que je ne vais pas vous faire un cours de médecine et de chirurgie, mais plutôt attirer votre attention sur trois aspects. Premier lieu, le triage, qui est la pierre angulaire de toute action chirurgicale à l'avant. Ensuite, les évolutions techniques principales, sans rentrer trop dans les détails, et pour finir par la philosophie actuelle. Alors ce triage, il faut le concevoir comme un... Il faut non seulement le concevoir, mais c'est un acte médical, c'est un examen médical qui est fait par un médecin qui va recueillir les blessés. C'est un examen qui, nous allons le voir, est difficile et qui est assez frustrant. On va envisager, à propos de ce triage, les définitions de ce triage, à quoi est-ce qu'il aboutit, à une catégorisation, et les problèmes qu'il soulève qui sont non négligeables. Alors le triage, c'est examiner un blessé ou plusieurs blessés, et c'est bien là où est le problème, quand il y a un afflux massif de blessés. Au bout de trois, c'est déjà un afflux massif quand on n'est que deux chirurgiens. Il faut hiérarchiser et catégoriser ces blessés pour tout simplement définir lequel est le plus grave d'entre eux et lequel va passer en premier, donc au bloc opératoire. C'est un acte difficile, qui est insatisfaisant et qui est frustrant, tout simplement parce que vous allez fonctionner de façon avec un raisonnement à but collectif et non pas individuel. Donc c'est un raisonnement qui est à l'opposé de celui qu'on a dans la pratique civile où tous les moyens vont être mis en œuvre pour traiter le blessé ou le patient qui arrive. Là, c'est presque l'inverse. Il faut sauver la vie au plus grand nombre possible. Et dans le lot, il est bien évident qu'il va falloir faire un choix d'en laisser pour compte quelques-uns. Donc c'est un acte qui est difficile moralement, qui est difficile techniquement, parce que vous imaginez bien que c'est un cas extrême, mais enfin c'est l'archétype de cette chirurgie d'exception. Quand vous voyez un blessé comme celui-là, qui était un blessé de la rue de Rennes, de l'attentat de la rue de Rennes en 83, qui est multi-blessé, multi-lésé, avec une plaie de l'abdomen, une amputation traumatique du membre supérieur, du membre inférieur, un blast thoracique, un trauma crânien. Il faut vite faire le tour du problème et vite définir où est l'urgence. C'est un mal nécessaire pour un bien, comme je vous le disais, car on va forcément, lorsque vous avez 10 blessés qui arrivent, en choisir et choisir un ordre, ce qui veut dire que le premier aura forcément plus de chances que le second. Et je ne parle pas des urgences dépassées. Tout ça montre très bien qu'il faut y réfléchir avant. Alors, la catégorisation, c'est une catégorisation que je vous montre, mais qui est celle en vigueur dans le service de santé des armées français, mais qui est peu ou prou le même dans tous les services de santé occidentaux, qu'ils soient latins ou anglo-saxons. Alors, on divise ces blessés, ces urgences, en trois types d'urgences, des urgences absolues, des urgences relatives, des urgences dépassées. On parlera tout à l'heure des urgences dépassées. Les urgences absolues sont des urgences qu'il faut opérer avant la sixième heure, de façon immédiate, en extrême urgence quand il s'agit d'une hémorragie aiguë, d'une détresse respiratoire, ou bien avant la sixième heure si possible, quand il s'agit de plaies de l'abdomen non hémorragiques ou de fractures ouvertes non hémorragiques. Les urgences relatives, mais ce sont des traumatismes un peu plus véniels, entre guillemets, des plaies des parties molles, importantes, des fractures fermées, qui peuvent attendre d'être opérées après la sixième heure. Alors pourquoi la sixième heure? Parce qu'il faut bien légiférer, je dirais, il faut bien donc donner une heure. La sixième heure, c'est une heure qui semble convenir à tous les blessés auxquels nous avons eu affaire. Alors, Vous voyez très bien que cette qualité du triage va influencer le pronostic. S'il est mal fait, on va laisser passer des blessés qui auraient mérité d'être opérés en premier et qui ne seront pas sauvés. Et s'il est bien fait, on va pouvoir en sauver ou essayer d'en sauver le plus possible. Alors, qui trie ? Il faut imaginer que, en tout cas dans nos structures françaises, les antennes chirurgicales sont composées de 12 à 15 personnes avec deux chirurgiens et un réanimateur. C'est en principe le médecin le plus expérimenté, puisque c'est un acte difficile. Donc c'est le médecin qui est le plus savant, qui a l'expérience chirurgicale, en tout cas la plus importante. Mais il se trouve que c'est le réanimateur qui le fait, pour la bonne et simple raison que le chirurgien lui opère. Il ne peut pas donc faire le tri et opérer, surtout quand il y a des vagues successives de blessés. L'idéal, ce serait qu'il y ait le couple, ce fameux couple réanimateur-chirurgien, qui peut donc allier les qualités de l'un et de l'autre. Mais dans la réalité, c'est le réanimateur qui endort le patient pour le chirurgien qui opère, qui quitte son bloc opératoire quelques minutes pour aller examiner le blessé suivant qui vient d'arriver. Alors ce triage, il pose des problèmes. Je vais vous les exposer rapidement, du plus simple au plus compliqué ou au plus terrible à mon sens. Des problèmes logistiques, il faut choisir un lieu pour ce tri. Il faut choisir un lieu vaste, si possible, parce qu'il faut tourner autour du patient, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que ce triage, c'est une catégorisation, mais c'est une réanimation dans le même temps. On trie, on examine et on réanime en même temps. Donc il faut pouvoir poser les drains, poser les voies veineuses, il faut donc un lieu assez vaste. Si possible, à l'abri des projectiles, pour travailler plus sereinement possible, et dans un calme relatif. Alors tout peut se faire, hein. Là c'est une croix, parce que comme une gare de triage, en fait. Je voudrais insister sur les modalités d'enregistrement. Autant c'est facile, relativement facile dans nos armées conventionnelles d'enregistrer avec des PC informatiques portables, surtout que ce sont des blessés qui arrivent le plus souvent avec une fiche médicale pré-remplie, avec un nom, avec une étiquette, avec déjà un pré-tri. Autant c'est difficile, comme on vous l'a dit, comme Jacques Humeau vous l'a dit, en chirurgie de type humanitaire, avec la barrière de la langue, avec des gens qui ne sont pas ramassés, médicalisés, qui vous arrivent en vrac, entre guillemets. Donc il est plus difficile d'enregistrer ces patients-là. Et on avait trouvé une solution élégante, enfin qui est peut-être pas si élégante que ça d'ailleurs, de mettre un ruban adhésif sur le front du patient avec son nom et son type d'urgence, U1, U2, U3. Voici une fiche médicale de l'avant. Là, c'est une fiche médicale allemande. Je suis désolé, j'aurais bien voulu vous montrer une fiche médicale française, mais bon, elles sont similaires. Les problèmes médicaux soulevés par ce triage, mais ils sont évidents, c'est du bon sens. La catégorisation que je vous ai proposée, eh bien, elle est évolutive. La situation médicale d'un patient qui arrive à âge zéro ne sera pas la même une heure après, forcément. Vous pouvez avoir une urgence relative d'une plaie des parties molles gigantesques qui ne saigne pas parce qu'il y a eu un pansement compressif et qui, dans sa salle de tri, pendant que tout le monde est au bloc, va saigner brutalement parce que le caillot plaquettaire va être poussé par le pouls et ça va devenir une urgence absolue. Il va falloir l'opérer. Donc, toujours avoir cette notion que cette catégorisation est évolutive, c'est la raison pour laquelle on doit surveiller ces patients. Mais vous imaginez la difficulté quand il y a un réanimateur qui doit surveiller 15 patients, par exemple, qui en même temps doit faire l'anesthésie du patient qui est sur la table d'opération. C'est une chirurgie qui doit être rapide, et ça vous l'imaginez bien, surtout en cas d'afflux massif, parfois rustique, tout simplement pour lutter contre cette perte de temps et qu'elle ne soit pas préjudiciable pour les patients suivants. Mais nous verrons tout à l'heure que c'est parfois un avantage d'opérer rapidement. Et enfin, le problème le plus difficile, à mon sens, c'est le problème éthique. Les urgences dépassées. Qu'est-ce que c'est qu'une urgence dépassée ? Elles ont des vocables différents selon les selon les services de santé, ce sont les morituries pour les Américains, les hopeless, T4 dans la classification de l'OTAN, ou P4 dans les conflits nucléaires, ou en catégorie 2 pour la classification de la Croix-Rouge. Bref, ce sont des patients comme celui-là, des blessés, qui sont là dans ce cas, qui étaient victimes d'une explosion, qui est brûlé, polycriblé, blasté, avec un traumatisme crânien, bref, qui est en train de mourir. Voilà ce que peut être une urgence dépassée. Ce patient n'est pas tout à fait donc décédé, mort à l'arrivée, mais il va probablement décéder dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Mais tout le problème est qu'il n'y a pas de liste préétablie. Vous n'avez pas une liste avec 10 cas cliniques dont il faut faire des urgences dépassées. Ce terme d'urgence dépassée, cette notion, c'est vous qui allez l'établir en fonction de votre contexte opératoire. Je veux dire par là que vous pouvez avoir un blessé grave, polylésé, que vous pourriez sauver ou essayer de sauver s'il était isolé. C'est ce qui se passe du temps de paix quand le SAMU vous amène un patient qui est accidenté de la route. Tous les moyens vont être mis à sa disposition pendant des heures, voire même des jours. Là, c'est pas du tout le même problème. Ce blessé, s'il n'est pas isolé, arrive avec d'autres blessés qui sont tout aussi graves. Eh bien, ce blessé, parfois donc très grave, dont le sort est très improbable, dont l'issue est très incertaine, eh bien, il va falloir le laisser de côté pour choisir les autres. Eh bien, c'est quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude. Donc, il faut s'y préparer techniquement et surtout moralement. Donc c'est une morale collective qui va se substituer à notre morale individuelle. Enfin, en principe, il ne faut pas faire de distinction de race, de sexe, de camp et de grade. Je dis bien en principe, parce que le contexte est différent. Dans le cas de la chirurgie de type humanitaire, vous avez des populations déplacées, tout le monde est mélangé, il y a une pression énorme des milices, comme on vous l'a dit, qui veulent faire opérer quelqu'un. C'est parfois pas aussi simple que ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails, on pourrait en parler des heures. Mais il est clair que les organisations non gouvernementales ont probablement, ils ne portent pas d'uniforme. Donc ils ne représentent pas l'occupant et ils ont probablement beaucoup plus de liberté que qu'ont les médecins militaires ou les antennes chirurgicales des armées qui ont quand même un rôle assez strict. On vous l'a dit, la population civile paie un lourd tribut. Au Rwanda, il y avait 33% de blessés. Est-ce qu'on va trier la même façon des enfants que des vieillards? Eh bien, en principe, oui. Mais il est clair que vous serez obligé parfois de laisser pour compte et de classer en urgence dépassée un enfant, dans le même cas que je viens de vous citer, et ça va être extrêmement difficile. Mais il est probable qu'avec une urgence égale, on traitera de façon préférentielle les enfants en laissant de côté les vieillards. Alors, sur le plan technique, je vais vous retracer rapidement l'historique pour montrer l'évolution sur ces 100 dernières années, très simplement, et puis vous sortir de cette évolution technique deux problèmes techniques majeurs dans cette chirurgie, qui sont les besoins en sang et la transfusion du sang à l'avant, car c'est une chirurgie qui ne peut pas se faire sans qu'il y ait de transfusion sanguine, car vous l'avez vu, ce sont des blessures très très hémorragiques. Et enfin, un procédé opératoire relativement récent, qui est le damage control. Alors, la chirurgie du temps de paix et la chirurgie du temps de guerre ont vécu l'une de l'autre. C'est-à-dire que la chirurgie du temps de paix, pour prendre un exemple, a vécu, pour ce qui est de la chirurgie vasculaire et de ses principes, grâce aux avancées qu'il y a eu en chirurgie de guerre. C'est une chirurgie récente qui a 50 ans, la chirurgie vasculaire. avant, les artères ne s'opéraient pas, elles se liaient. Eh bien, c'est grâce aux premières interventions de chirurgie vasculaire au Vietnam et à la fin de la Deuxième Guerre, qu'on en a pu donc établir des principes qui ont servi ensuite à la chirurgie du temps de paix. Et réciproquement, la chirurgie du temps de guerre, on le verra tout à l'heure, a bénéficié très largement aussi de la chirurgie du temps de paix. Donc ces deux types de chirurgie sont finalement pas si différentes que ça. Alors sur le plan historique, vous voyez très bien que bien avant 1914, avant la Première Guerre, la chirurgie était limitée. Avec tout simplement donc réalisation d'amputations sur le terrain, ça a sauvé des vies, mais enfin c'était quand même relativement limité, le drainage d'abcès et la première ligature artérielle qui a été réalisée par Ambroise Paré. À partir de la Première Guerre, on a commencé à ouvrir les ventres pour faire la chirurgie des plaies de l'abdomen. C'est récent. Il faut savoir que la chirurgie viscérale telle qu'on la conçoit actuellement a vu ses principes naître au début du siècle dernier. Donc ça a à peine 100 ans. À partir de la Deuxième Guerre, l'antibiothérapie fait son arrivée et donc limite l'infection, les principes de la chirurgie vasculaire. Et alors là, le Vietnam et la Corée, le Vietnam américain, français un peu moins, le Vietnam américain qui est plus récent, a permis l'élaboration de la chirurgie vasculaire, notamment, a permis de sauver des blessés à l'avant, tout simplement parce qu'on les transfusait très rapidement et qu'on les évacuait aussi rapidement, donc par hélicoptère, sur l'arrière. Alors, la transfusion, les besoins en sang sont réels. C'est le bon sens quand vous avez vu ces photos qui sont un peu difficiles. Il faut savoir que, par exemple, pour la rue de Rennes, en 86, nous avions eu au Val-de-Grâce 3 blessés extrêmement graves qui ont nécessité à eux 3 qui ont utilisé, entre guillemets, plus de 80 kilos globulaires. Vous savez qu'un kilo globulaire, ça représente 1 millilitre de sang. Vous imaginez que pour 3 blessés, seulement la quantité de sang qu'il a fallu donner. Au Vietnam, on avait calculé que chaque blessé consommait environ 3 kilos de sang. La guerre du Kippour, 2 kilos. On pourrait comme ça, à l'envi, montrer qu'on ne peut pas faire ce type de chirurgie, on ne peut pas sauver ces blessés sans transfusion. Alors les moyens transfusionnels, à l'avant, ils sont faibles. La transfusion du sang telle qu'on vous l'a fait ici en pratique civile, c'est-à-dire avec du sang isogroupe, isorésus, homologue, eh bien on en a peu. On en a d'autant moins qu'il faut l'amener à l'avant dans des containers, qu'il faut les réfrigérer, qu'il faut les conserver dans de la glace à une température faible. Vous imaginez, dans l'ambiance dégradée qu'on vous a décrite, tout ce que ça peut supposer comme difficulté. Il faut transfuser aussi en respectant la sécurité transfusionnelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en 2007, on vous le reprochera peut-être pas si le patient est vivant, mais néanmoins, avec l'esprit procédurier que l'on connaît, on vous reprochera d'avoir transfusé du sang de quelqu'un qui était porteur du virus VIH ou de l'hépatite C. Donc il faut respecter cette transfusion. Alors quelles solutions on peut disposer à l'avant? Eh bien il faut, c'est le bon sens là aussi, limiter les pertes sanguines. Ça veut dire qu'il faut protéger nos combattants par des gilets pare-balles, des casques, des blindages. Il faut effectuer une chirurgie précoce dès que le patient commence à saigner et pas attendre. Il faut optimiser les apports, c'est-à-dire qu'il ne faut pas transfuser à tout crin, tout le monde. Vous savez qu'un sujet normal a 14 grammes d'hémoglobine dans le sang, eh bien on ne va pas transfuser en dessous de 8 grammes, ou plutôt au-dessus de 8 grammes. Alors, finalement, il y a un mode qui est élégant, qui est l'autotransfusion. Alors, l'autotransfusion, le principe de l'autotransfusion, c'est prélever du sang du patient pour lui retransfuser. Du sang qu'il perd, on le prélève et on lui retransfuse par la veine. Alors, ça peut sembler évident, néanmoins, ça allait moins que ça. Le premier chirurgien qu'il a réalisé, c'est un chirurgien allemand, en 17, Elmendorf, qui a pris du sang d'un de ses blessés qui saignait dans le thorax, qui est du sang qui est non coagulable et qui l'a retransfusé dans une veine. Alors depuis, on fait beaucoup mieux, avec beaucoup moins de risques. On utilise des autotransfuseurs que l'on utilise dans notre chirurgie du temps de paix, dans toutes les chirurgies qui sont hémorragiques. C'est un appareil, comme vous le voyez ici, qui va permettre, à l'aide d'un aspirateur, de recueillir le sang soit dans un thorax, en gros, soit dans un abdomen hémorragique, qui va le centrifuger et qui va laver tous ces globules rouges qui vont pouvoir ensuite être retransfusés dans une poche. Alors, c'est une quantité qui est théoriquement illimitée, qui n'est limitée que par la fonction cardiaque du patient. Quand il s'arrête de battre, il n'a plus de sang. Avec une qualité prouvée, car ce sont des globules rouges qui sont de très bonne qualité, débarrassés de tous les débris cellulaires, mais avec des limites, car vous savez que dans le sang, il n'y a pas que des globules rouges et des globules blancs, il y a les facteurs de coagulation, et ces facteurs de la coagulation ne sont pas retransfusés avec ce sang-là. Donc ça va induire forcément des syndromes hémorragiques. Et en principe, il ne faudrait pas retransfuser du sang qui a été contaminé, par exemple, dans une plaie de l'abdomen avec une ouverture digestive. Mais ça, c'est une contre-indication un peu plus limitée. Vous avez ici du plasma cryodesséché, c'est-à-dire la composante non cellulaire du sang qui contient les facteurs de coagulation. Donc ce plasma, il va falloir le surajouter au sang que vous transfusez. Alors ce mode de transfusion, d'autotransfusion, est disponible dans toutes les antennes chirurgicales actuellement et a rendu de grands services, même si ça n'est pas les panacées, ça a rendu de grands services. Le damage control. Alors je vous donne le vocable anglo-saxon volontairement parce que c'est une procédure opératoire qui est née des États-Unis, enfin du moins qui a été publiée, formalisée la première fois en 83, donc c'est tout à fait récent, par des chirurgiens américains du sud de l'Amérique qui voyaient plein de plaies pare-balles au Texas dans les trauma centers et qui disaient on s'y prend mal, il faut qu'on fasse autrement. Alors implicitement, nos anciens chirurgiens avaient probablement cette idée-là aussi, mais ils ne l'avaient pas formalisée. Alors c'est au premier qui formalise qui gagne, donc ce sont les Américains qui ont gagné. Alors, ces chirurgiens avaient remarqué que l'approche traditionnelle chirurgicale classique de vouloir opérer tout en un, c'est-à-dire toutes les lésions du blessé, les unes après les autres, le plus parfaitement possible, aboutissait dans ces conditions d'arrivée de blessé, exsanguiné, refroidi, avec des troubles métaboliques, très souvent au décès. Et ça arrivait non seulement au décès, mais en plus vous perdiez un temps incroyable pour les autres. Donc ils ont décidé, ils ont remarqué qu'il y avait une approche alternative, alternative approach, qui est une chirurgie combinée, qui est une chirurgie en plusieurs séquences. Premier temps, vous opérez le patient, vous contrôlez l'hémostase, c'est-à-dire vous empêchez les artères de saigner, vous empêchez un organe plein de saigner, comme le foie, qui est un organe qui est très richement vascularisé, en mettant des nœuds sur les artères, en mettant des compresses, en tassant des champs dans un abdomen, en fermant les orifices dans le tube digestif, et vous refermez le patient. Vous ne faites rien d'autre. Alors c'est une chirurgie qui peut sembler extrêmement rustique, voire même barbare, et un peu à l'encontre des procédés scientifiques. Erreur, ça rend énormément de services. Tout simplement parce qu'une fois le patient refermé, on va pouvoir le réchauffer. Ce sont des patients qui arrivent refroidis, qui sont hypothermes, avec une température centrale aux alentours de 32 degrés. On va pouvoir les réanimer. Et s'ils ont le bonheur d'être en vie 48 heures après, eh bien vous le réopérez. Pour assurer le traitement définitif, il faut réouvrir, enlever les champs, et là, compléter ce qui n'a pas été fait la première fois. Et de préférence, le compléter dans un établissement de l'arrière qui disposera de toute une structure, de tout un plateau technique. Alors vous avez ici deux figures, deux cas opposés, un abdomen de guerre, infecté, dont le tri a été naturel puisqu'il était tchadien, Donc il n'y a pas eu de triage, mais le patient est arrivé vivant. Donc c'est qu'il avait eu de la chance. Et ce patient a été traité de cette façon-là, de façon séquentielle. On a fait l'hémostase, on a fermé les trous, on a refermé le patient et on l'a réopéré 48 heures après. L'autre patient, eh bien, a bénéficié d'une chirurgie beaucoup plus classique, c'était l'amputation. Il est évident que là, on pouvait difficilement faire autre chose qu'une régularisation. Alors, quelle est la philosophie actuelle de cette chirurgie d'exception? Eh bien, il y a, tous les progrès ont été faits parce qu'on a médicalisé l'avant. C'est-à-dire que le médecin se déplace au plus près des combats, au plus près du combattant. Il n'attend pas dans son bungalow climatisé à 100 km à l'arrière. Il va sur le terrain. Il va ramasser ses blessés. Et en ramassant ses blessés, il va pouvoir faire des gestes de sauvetage. Il va pouvoir les intuber, les ventiler, mettre un garrot, les transfuser, ou du moins les perfuser, les remplir, les réanimer, s'il le faut. Et ensuite, il va les transporter sur la première structure chirurgicale. Et cette médecine va se faire par échelon. Un premier échelon, donc je vous l'ai dit, de ramassage, d'évacuation primaire. Un deuxième échelon, chirurgie de sauvetage en un ou plusieurs temps, réanimation et évacuation secondaire pour une chirurgie définitive. C'est comme ça qu'on conçoit actuellement ce type de chirurgie dans nos armées conventionnelles. C'est évident qu'en chirurgie humanitaire, sauf accord politique, la population civile arrive comme elle peut, sans ramassage préalable. Donc là, il y a un tri naturel qui s'effectue, malheureusement, et n'arrive que les plus costauds. Voici une carte qui résume ce que je vous ai dit, c'est-à-dire médicalisation, évacuation sanitaire précoce, avec tous ces moyens d'évacuation que l'on verra tout à l'heure, du véhicule blindé, sur le champ de bataille, à l'hélicoptère, à l'avion, à réaction. L'itinéraire d'un blessé français que nous avions eu à Sarajevo, pour résumer, pour illustrer très rapidement, il est blessé à 15h. À 15h20, il est amené à l'antenne chirurgicale. Il est traité, réanimé. Il est convoyé par air. Et il est opéré à 23h à l'hôpital Bégin à Vincennes, c'est-à-dire 8h après, à 2000 km. Ce patient a survécu. Alors, voyons rapidement les moyens d'évacuation. On ne va pas faire un cours de logistique et de technique. D'ailleurs, on en serait bien incapable. Mais du plus simple au plus compliqué, l'hélicoptère qui est disponible, le véhicule d'avant blindé, les Falcons qui servent d'ailleurs au transport donc des personnalités politiques et qui sont utilisés et transformables pour aller chercher des blessés sur le front, ou alors des véhicules, des avions type Transal. Alors cette philosophie actuelle, ça c'est en théorie, c'est en pratique, mais j'espère que ça ne vous a pas échappé, que c'est une chirurgie d'exception avec beaucoup, beaucoup de variables d'ajustement. Et la principale variable d'ajustement étant la maîtrise de l'air. Et si vous n'avez pas de moyens d'évacuation, vous n'évacuez personne. Les Américains, pour ne citer qu'eux, mais ils sont très présents actuellement avec leur expérience d'Irak, ont la maîtrise totale de l'air et ont une puissance logistique hors du commun. Ce qui fait qu'ils évacuent de façon secondaire excessivement rapidement leurs blessés sur les hôpitaux de l'infrastructure en Allemagne. Un blessé est traité donc près de Bagdad, il est amené à leur hôpital de l'arrière, nous en reparlerons, à Bagdad. Il est traité rapidement avec un damage control, ils en font beaucoup. Ce blessé est mis rapidement dans l'avion qui va jusqu'à Francfort, ou dans une ville allemande, où se trouvent les hôpitaux militaires américains. Et ensuite, de façon tertiaire, sur les États-Unis. Mais il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça, du moins à grande échelle. Et là, leur conception s'oppose un peu à la nôtre. Elle n'est pas si opposée que ça, mais elle est un petit peu différente. Tout simplement parce que nous avons élaboré une doctrine en fonction de nos capacités logistiques. Nos capacités logistiques, et en tout cas pour la plupart des armées qui ne sont pas en fait américaines, sont assez faibles. Ce qui fait que les Français, depuis au moins l'Indochine, ont décidé d'aller au plus près des combats. Avec donc des antennes chirurgicales qui sont transportables, qui sont facilement démontables, que l'on peut mettre en œuvre en 12-24 heures, et comme ça, on suit les combats avec des équipes qui sont mobiles, 12-15 personnes. La conception américaine est différente, puisqu'ils peuvent évacuer leurs blessés en grand nombre sur l'arrière, ils n'hésitent pas à faire des gros hôpitaux qui réclament 24, 48, voire 72 heures pour être mis en œuvre, avec une multitude de spécialités chirurgicales présentes. Les Français, dont nous sommes, ont choisi, ont pris le parti de mettre en œuvre des chirurgiens qui sont polyvalents. Ils ont leur spécialité du temps de paix, orthopédiste, chirurgien vasculaire, viscéraliste, mais ils sont capables de traiter de façon suffisante les plaies qui vont venir à eux. C'est ainsi que dans une antenne chirurgicale, il y a deux chirurgiens, un orthopédiste et un viscéraliste. Les Américains, eux, dans leurs hôpitaux de l'arrière, vont avoir un urologue, un ophtalmologue, un ORL, un vasculaire, un chirurgien thoracique, un chirurgien viscéraliste, un orthopédiste et un neurochirurgien. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Voici le dernier né de... On dirait que je fais une publicité pour Dassault, mais c'est un Boeing qui a été un Boeing qui transporte en principe de l'essence, du kérosène, qui a été transformé, de l'armée française, qui a été transformé, dont on a enlevé les soutes à kérosène et qu'on a transformé en service de réanimation ambulant. Vous voyez, donc c'est un avion, un gros avion, hein, c'est un quadriréacteur, qui peut admettre 12 blessés de réanimation légers ou de façon mixte 6 blessés lourds et 6 blessés légers. Mais vous voyez, avec des systèmes qui permettent, vous voyez ici un site de réanimation lourde, comme dans un service de réanimation au Val-de-Grâce ou au CHU d'à côté, avec des poussins électriques, des appareils d'enregistrement de l'activité cardiaque, enfin tout ce qu'il faut, avec suffisamment d'espace et avec la possibilité, comme vous le voyez ici, de réaliser par exemple une échographie avec un appareil d'échographie. Mais cette chirurgie, c'est une chirurgie qui est une chirurgie qui reste une chirurgie d'exception, c'est-à-dire que, là je vous ai montré les moyens d'évacuation tels qu'on les souhaiterait, mais ça n'est pas toujours comme ça. L'exemple que je vais vous montrer, c'est celui du Tchad, où ces moyens d'évacuation sont vraiment extrêmement différents, où on brancarde à l'aide d'un engin de levage, comme vous voyez ici, ce qui peut sembler, en 2007, un peu curieux, où les blessés nous arrivent, les uns sur les autres, dans un avion, affrété par l'armée tchadienne, je le précise, les uns sur les autres, quelques-uns avec le sourire, mais enfin globalement, c'est difficile. Voilà, donc nous arrivons au terme de cet exposé. Pour conclure que cette chirurgie est une chirurgie d'exception parce que, non pas tellement par la nature, bien sûr par la nature des blessés et des blessures, mais vous pouvez avoir des blessures un peu similaires du temps de paix avec toutes les catastrophes que vous avez eues, mais qui est d'exception par les conditions dans lesquelles elle s'exerce. C'est la situation qui rend cette chirurgie exceptionnelle. C'est l'éloignement, c'est la climatologie, c'est la pénurie de moyens, la pénurie d'hommes, la pénurie de personnel. Il faut donc des facultés d'adaptation importantes, alors qui sont inhérentes à chacun, bien sûr, mais il faut un apprentissage extrêmement sérieux pour pouvoir exercer ce type de chirurgie et surtout donner finalement le plus grand nombre de chances à ces blessés. Chaque type d'activité médicale retire de l'autre des bénéfices. Donc la chirurgie du temps de gain, comme je vous l'avais dit, a retiré des bénéfices du temps de paix et vice-versa. Et il ne faut pas oublier que ça reste une chirurgie du dénuement et que ça reste donc une chirurgie extrêmement difficile au plan technique et aussi au plan moral. Et en conclusion, pour finir, je voudrais aussi vous dire que c'est finalement une situation à laquelle tout chirurgien, tout apprenti chirurgien rêve, mais qui redoutent en même temps, parce que ce sont vraiment des situations difficiles, qui sont extrêmement valorisantes, mais qui vous mettent en situation de façon parfois, vous êtes au pied du mur. Et en tout cas, ce qu'il faut garder comme souvenir, c'est que c'est une chirurgie qui est une chirurgie d'équipe, où tout le monde, quel que soit son rôle, a un rôle à jouer, et où finalement cette pénurie de moyens et de temps est suppléée par un supplément d'âme. Et enfin, nous voudrions rendre hommage à nos anciens, à nos anciens camarades, qui, comme vous le voyez sur cette photo, ont fait le choix du don de soi finalement, et dont cette photo exprime le désarroi, qui résume à lui seul toute la difficulté de cette chirurgie. Je vous remercie.
Alors, nous allons passer aux questions. Donc, il y a une question là, sur la droite, et une question au milieu après. Monsieur.
Je remercie ce conférencier. Je voudrais lui poser la question de savoir s'il a eu l'expérience avec les brûlures, notamment que j'en ai vu quelques-unes en Algérie, avec les brûlures par lance-flammes, quand on recherchait les felouges dans les grottes, avec l'hypothèse aussi de faire évacuer les gens selon qu'on était d'un côté ou de l'autre, sans exclure qu'on allait chercher le renseignement éventuellement sur le blessé. Je vous remercie.
Donc, peu de blessures, mais malgré tout, nous en avons récupéré quelques-unes au Tchad, des grands brûlés, qui se traitent comme... c'est un énorme problème de réanimation, et on avait à notre disposition des bains, certes pas aussi performants que ceux qu'on peut trouver dans les hôpitaux comme à Percy, mais qui permettaient, avec une grosse réanimation, de pratiquer cette chirurgie des brûlés qui consiste à ouvrir les téguments pour permettre la survie de ces patients en sachant que les séquelles étaient énormes avec beaucoup de dégâts. Et il est vrai que lorsque vous êtes en présence d'un lance-flamme à proximité, les chances de survie sont plus que limitées. Donc on en reçoit peu.
Monsieur ?
Une douzaine de personnes et deux chirurgiens. Personnellement, avant d'arriver ici, j'avais imaginé que tout ce qui est aide-soignant ou infirmier ou autre mettait la main à la pâte et participait beaucoup plus qu'en temps de paix. Je pensais qu'ils faisaient presque un travail de chirurgien, puisqu'il doit avoir des connaissances bien supérieures à ce que les chirurgiens avaient il y a 50 ou 100 ans. Et à vous écouter, j'ai eu l'impression que c'était l'inverse, qui touchait pas aux blessés, que c'était uniquement les chirurgiens qui s'en occupaient, Mais j'imagine que quand même, ils font plus qu'en temps de paix. La douzaine ou bien la dizaine de personnes qui ne sont pas des vrais chirurgiens. Pouvez-vous m'éclairer un petit peu sur ce point ?
Non, mais il est évident que, comme je vous l'ai dit dans ma conclusion, que c'est une affaire d'équipe. C'est-à-dire que tout le monde a un rôle à jouer. Il est bien évident qu'on s'appuie énormément, quand un chirurgien opère, il s'appuie énormément sur les infirmiers, parce qu'il y a des infirmiers dans l'antenne chirurgicale. Et j'ai pas voulu nier leur rôle. Ils ont un rôle à jouer, mais la décision ultime et finale d'opérer un patient ou de ne pas l'opérer, elle reste du ressort du médecin. Même si vous avez des infirmiers chevronnés, même si le bon sens, et peut-être que chacun ici aurait suffisamment de bon sens pour savoir quand la situation s'aggrave, mais je vous ai aussi souligné que la situation était suffisamment difficile à établir et ce triage était suffisamment difficile à établir parfois pour apprécier une situation. Oui, bien sûr, c'est une activité d'équipe, mais dans la mesure de leur rôle, les médecins ont encore le rôle essentiel à jouer quant à la décision finale. On ne peut pas laisser une décision de classer une urgence absolue ou relative à quelqu'un en principe qui n'est pas médecin, mais si on pousse le raisonnement dans des situations extrêmes, il est bien évident que ça sera peut-être le cas. Et à ce moment-là, on s'adaptera. Mais il faut partir avec des règles bien définies. Ensuite, on les adapte au terrain, ces règles-là, et aux circonstances.
Au milieu, monsieur. Oui, je voudrais donc poser quelques questions. La première, c'est le type de blessure que vous pouvez constater en cas d'attentat. Est-ce qu'il est plus courant que ça soit en Irak ou comme ça s'est passé en France? Et deuxièmement, est-ce que vous avez envisagé justement une intervention en cas de catastrophe nucléaire? Et quel genre de blessure on peut relever et ce qui est prévu, même si ça arrivait ici en France?
J'ai pas compris, vas-y. Ben, les blessures par attentat sont des blessures par explosion, la plupart du temps, donc sont des blessures par explosion comme ceux qu'on a vus pendant l'attentat de la rue de Rennes ou l'attentat du boulevard Saint-Michel, c'est-à-dire avec des lésions qui n'obéissent à aucune systématisation, c'est-à-dire que c'est pas un trajet rectiligne avec une porte d'entrée et une porte de sortie, avec des fracas ouverts, avec des brûlures et surtout un caractère polylésionnel, c'est-à-dire que, comme ce blessé de la rue de Rennes, avec un traumatisme crânien, un blast, c'est-à-dire une onde de choc qui est venue provoquer des lésions pulmonaires, cérébrales, abdominales par l'onde de choc. Ce patient avait des éclats de poubelle, puisque la bombe a été placée dans une poubelle, des éclats de poubelle qui étaient venus l'ouvrir et lui couper, lui arracher les membres. Donc ça échappe à toute systématisation, ces blessures par attentat. Les blessures graves en tout cas. Quant au reste, j'ai pas eu le privilège d'assister à une explosion nucléaire de mon vivant. Je ne serais pas là pour vous le raconter sinon. Donc ce sont vraiment des situations extrêmes où dans l'épicentre, mais vous le savez comme moi, il n'y a plus rien. Et ensuite on retombe dans des cas un peu plus classiques, c'est-à-dire qu'on retrouve des brûlés et des polytraumatismes avec des blasts à plusieurs kilomètres à distance, et puis surtout des irradiés aigus qui vont avoir des séquelles hématologiques et des lésions hématologiques définitives à court et à moyen terme, ou à long terme pour ceux qui auront des séquelles. Tout ça est difficilement systématisable, vous l'imaginez bien.
Sur la gauche, monsieur, oui.
Bonsoir, c'est une question pour le docteur Humeau. Vous avez parlé des deux approches traditionnelles et alternatives de rapatriement des blessés.
Et donc vous avez dit les Américains, ils ont d'énormes moyens, beaucoup d'avions, beaucoup de chirurgiens en Europe, en Allemagne. Les Français ont moins de moyens, etc., etc. Et donc ils se rapprochent du terrain, voire ils sont sur le terrain pour intervenir. Et pourtant, vous avez pris pour l'exploser, mais enfin pour l'exposer, mais l'exemple d'un blessé qui était blessé à 15 heures et qui bénéficiait de tous les traitements logistiques de façon à être opéré à 23 heures en France. Alors, ma question est la suivante. Face à cette différence de moyens matériels, et donc de financiers, bien sûr, puis d'avions disponibles, etc. Dans quel cas on rapatrie un ou des blessés en France? Alors, pour quel type de situation, pour quel type de gravité? Et puis, est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est tout à fait exceptionnel? Merci.
Vous oubliez que à Sarajevo, il n'y avait pas d'afflux massif. C'était des blessés par sniper, comme on vous l'a dit, donc c'était des blessés un ou deux par semaine, qui permettaient donc ce genre d'évacuation, d'autant que la plupart des militaires étaient basés sur l'aéroport de Sarajevo et que donc la condition, il n'y avait pas de tri sélectif, j'allais dire, pour savoir lequel des blessés était rapatrié. C'était le rapatriement systématique pour les blessés français qui étaient rapatriés en France. Donc on utilisait, si vous voulez, la technique des Américains, puisque nous en avions la possibilité. Quand vous êtes au fin fond du Tibesti, le problème est un peu différent. Vous êtes avec des afflux massifs, votre problème n'est plus du tout le même. Vous ne pouvez pas accéder à vos blessés, vous ne pouvez pas les envoyer. Alors qu'ils soient français ou tchadiens, le problème est le même. Il faut bel et bien les traiter au plus près, puisque vous n'avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas à disposition d'infrastructures lourdes. Voilà pourquoi. Mais il n'y a pas de sélection des blessés. C'est pas parce qu'il est général qu'il partira le premier. Ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas dans le cas d'un afflux massif. Ce sont des blessés, la plupart du temps, individuels.
Monsieur,
oui, bonsoir.
Ah, pardon.
Alors, madame d'abord et après monsieur.
Une question concernant les pays aujourd'hui en paix, mais qui ont eu des dommages suite à des conflits précédents et qui ne peuvent pas bénéficier d'interventions d'urgence, comme par exemple au Laos, où il existe encore beaucoup de mines. Quels sont vos moyens de diffusion de vos connaissances spécifiques en intervention d'urgence auprès des équipes médicales locales lorsqu'elles existent encore ?
Je ne connais pas la situation du Laos précisément, mais comme Jacques Humeau vous l'a dit, il n'y a pas que les militaires qui font cette chirurgie d'extraction. Les ONG, les organisations non gouvernementales, sont présentes partout et du fait de leur plus grande souplesse, puisqu'ils n'ont pas besoin d'un appui politique, ils s'en vont au gré du vent, je dirais. Donc avec des chirurgiens qui sont très compétents et qui donc effectuent leur travail, mais avec probablement beaucoup moins de moyens. Alors quant à l'apprentissage nécessaire pour faire ce type d'activité auprès des populations locales, il y a des accords de partenariat au vu de nos relations passées. Je sais qu'il y a des chirurgiens vietnamiens qui viennent en France, puisque nous en accueillons, de la même façon qu'il y a une présence française au Cambodge, sur le plan médical et chirurgical. Donc tout le reste tient aux accords politiques en vigueur. Mais cette chirurgie du type humanitaire, maintenant, a accès à pratiquement toutes les parties du globe. Donc il restera toujours bien sûr des endroits qui sont inexpugnables et très difficiles d'accès. Mais enfin, globalement, on peut arriver à pouvoir traiter ces blessés. En sachant que, bon, les blessures par mine, par explosion de mine qui existent et qui continueront tant que toutes les mines n'auront pas été relevées au Cambodge, au Laos, sont traitées maintenant par les chirurgiens laotiens, cambodgiens. Ils en ont l'habitude, malheureusement, et ils savent quoi faire. Parce que c'est quand même extrêmement stéréotypé, d'autant que ce sont des mines antipersonnelles, donc qui sont faites pour blesser, pas forcément pour tuer.
Oui, pour rebondir sur la question tout à l'heure, lorsque vous avez présenté les deux philosophies, philosophie française et l'approche américaine, la question qu'on se pose aujourd'hui dans l'évolution de la situation des conflits et des catastrophes, est-ce que vous êtes amené à coopérer entre ces deux approches, notamment dans le cadre de l'OTAN, et aussi dans les évolutions par rapport à la défense européenne, dans ces modes d'intervention à l'extérieur de l'Europe? L'autre question que je voulais vous poser, les ONG arrivent à recruter des médecins. Là, vous démontrez des situations très difficiles. Comment est-ce que c'est une mobilisation par acquisition au sein de vos forces, ou est-ce que vous allez être amené à essayer d'inciter des chirurgiens professionnels à venir travailler avec vous avec certaines conditions? Et dernière chose, les missions de la défense sur les terrains d'opération extérieure, c'est également aussi de participer à la reconstruction. Est-ce que vous êtes amené à avoir des missions de conseil pour la formation de chirurgiens civils après que vous ayez à gérer ces chirurgies de conflit?
Je prends un stylo. Non, il y a un certain nombre de questions que vous avez posées. J'y réponds ou tu veux en partir? Bon, notre exercice n'est pas un exercice univoque dans une cathédrale. Donc il n'y a pas de querelle de clocher ou d'école, et il y a des échanges internationaux, en tout cas entre les armées occidentales, américaines, allemandes et françaises, avec des échanges de chirurgiens, des chirurgiens qui viennent faire des stages dans nos hôpitaux et vice versa. De ce côté-là, il n'y a aucun problème, et finalement notre approche est différente. Il ne faut pas non plus... on opère tous avec quand même la même intention. Pour ce qui est des ONG, question était. Oui. L'avenir de la chirurgie, alors ça. L'avenir de la chirurgie en termes de ressources humaines, c'est un métier difficile, bon, il y en a d'autres, et qui correspond plus tout à fait à au partage du temps d'activité tel qu'on conçoit en 2007, pour des raisons culturelles et philosophiques, il faut passer beaucoup de temps. On arrivera toujours à former des chirurgiens, peut-être en les attirant différemment. Alors, ce type de chirurgie est enseigné partout, ici et donc aujourd'hui, ce soir, ce sont des militaires qui viennent vous en parler parce qu'il y a une tradition militaire, mais nos collègues civils font de la chirurgie de guerre du temps de paix aussi, dans tous les grands CHU. Il y a des organisations d'enseignement de médecine de catastrophe un peu partout, dans lesquels les militaires vont faire de l'enseignement, mais il n'y a pas que des militaires. Donc c'est plus du tout l'apanage des militaires. Donc c'est quelque chose qui est très connu, ne serait-ce que parce qu'il y a des catastrophes auxquelles il faut faire face, la catastrophe de la gare de Lyon, la catastrophe de Toulouse, d'AZT, où on a employé d'ailleurs des systèmes de triage qui tenaient de la chirurgie de guerre. C'était de la chirurgie de guerre du temps de paix. Il a fallu trier et ensuite évacuer. Donc, voilà, j'ai peut-être oublié une question. Sur la reconstruction de la médecine? Ah oui, mais les missions de conseil, oui, sûrement. Mais pour l'instant, je crois qu'on a d'autres problèmes à régler que ces missions de conseil. On en est pour l'instant à gérer des conflits d'idéologie, et tant que les conflits d'idéologie n'auront pas été traités, on n'aura pas la sérénité nécessaire pour faire des missions de conseil. On le fait au Cambodge, je le sais parce que j'y suis allé. Je sais qu'il y a des congrès, il y a des réunions médicales au Cambodge, il y a des enseignants français qui enseignent aux chirurgiens cambodgiens. En Afghanistan aussi, on a des Afghans qui sont au Val-de-Grâce actuellement, par exemple. On a un Afghan qui est au Val-de-Grâce. Donc, je crois qu'il faut d'abord régler les problèmes idéologiques et ensuite on fera tout le reste dans la plus grande sérénité.
Une dernière question, madame.
Je me posais la question de l'obtention du sang que vous utilisez. Parce que vous faites de l'autotransfusion, mais par ailleurs, vous avez besoin de sang. Alors, est-ce que moi, quand je donne mon sang ici, est-ce qu'il peut se retrouver quelque part ailleurs dans le monde, ou vous avez des circuits particuliers pour obtenir ce sang, si nécessaire, aux interventions?
Je réponds, Jacques. Je ne sais pas si votre sang aura le bonheur de se retrouver à Kaboul, mais en principe, non, parce que, sauf conflit mondial, et grâce à Dieu, on en aura probablement pas, ou je l'espère, c'est le centre de transfusion des armées qui est à Percy, qui fournit le sang pour tous les hôpitaux militaires et toutes les structures militaires. Donc ce sont eux qui vont fournir le sang qui va être emmené au Tchad, au Cambodge, donc en Afghanistan ou ailleurs. Si leurs besoins ou si leur capacité était dépassée, comme ça arrive parfois du temps de paix, ils font un appel aux autres centres de transfusion. Et c'est que dans ce cas que votre sang pourra peut-être sauver la vie d'un blessé outre-mer, d'un Afghan ou d'un Français, ou enfin bref. Voilà, donc c'est quand même assez classifié, assez organisé.
Et professeur Barranger et docteur Humeau, merci beaucoup.